6. Mon oncle Théodore Schubert. Mon attachement pour un autre oncle, Théodore Schubert, le frère de ma mère, eut un caractère tout différent. Cet oncle, fils unique de feu mon grand-père, et beaucoup plus jeune que ma mère, habitait toujours Pétersbourg, où, en sa qualité de seul représentant mâle de la famille Schubert, il était idolâtré par tout un monde de sœurs, de tantes et de cousines non mariées. Son arrivée chez nous à la campagne faisait événement. J'avais 9 à 10 ans lorsqu'il y vint pour la première fois. Sa visite fut, plusieurs semaines à l'avance, le sujet de toute la conversation. On lui prépara la plus belle chambre, et maman s'occupa elle-même d'y faire placer les meilleurs meubles. On alla le chercher en voiture à 150 verstes de chez nous, au chef-lieu du district. Et dans cette voiture, on avait mis une fourrure, un plaid et une couverture de voyage, car l'automne était avancé. Mais la veille du jour où on attendait mon oncle, voici qu'une simple télègue, attelée de misérables chevaux de poste, s'arrête devant le grand perron. Un jeune homme en descend lestement, vêtu d'un paletot de ville, une sacoche de voyage sur l'épaule. « Mon Dieu ! Mais c'est mon frère Fédia ! » s'écria maman, regardant par la fenêtre. « L'oncle ! L'oncle est arrivé !» La nouvelle se répand aussitôt dans la maison, et nous accourons tous dans le vestibule, au-devant du visiteur. « Fédia, mon pauvre ami, comment se fait-il que tu sois arrivé en télègue de poste? N'as-tu donc pas rencontré la voiture envoyée à ta rencontre? Tu as été bien secoué, » dit maman d'une voix émue en embrassant son frère. Il se trouve que l'oncle a quitté Pétersbourg un jour plus tôt qu'il ne pensait. « Le bon Dieu te bénisse, Lise, » répond-il en riant, et en essuyant le givre qui couvre ses moustaches avant d'embrasser sa sœur. « Je ne m'imaginais pas que tu ferais tant d'embarras pour me revoir. Pourquoi m'envoyer une voiture? Suis-je donc une vieille femme, que je ne puisse faire 150 verstes en télègue ?» L'oncle avait une agréable voix de ténor et parlait en grasseyant un peu. Il semblait encore tout jeune. Ses cheveux châtains, coupés en brosse, couvraient sa tête comme une fourrure de loutre épaisse et veloutée. Le froid faisait briller ses joues et les rendait vermeilles. Ses yeux bruns avaient un regard vif et animé, et une rangée de dents fortes et blanches se montrait à tout instant entre ses lèvres rouges, bordées de jolies moustaches. « Que mon oncle est beau garçon !» pensais-je en le contemplant avec admiration. « Est-ce Agnota ?» demanda mon oncle en me désignant. « Y penses-tu, Fédia ? Agnota est tout à fait une grande fille. Ce n'est que Sonia, dit ma mère, un peu froissée. Mon Dieu, qu'elles sont devenues grandes! Tu n'auras pas le temps de te retourner, qu'elles feront de toi une vieille femme, Lise. Attention! Et disant cela, l'oncle m'embrasse en riant. Je rougis involontairement, confuse de ce baiser. À dîner, l'oncle occupe naturellement la place d'honneur à côté de maman. Il mange de grand appétit, ce qui ne l'empêche pas de parler sans arrêter. Il raconte les nouvelles et les commérages de Pétersbourg, fait rire tout le monde et rit lui-même d'un rire sonore et bon enfant. Chacun l'écoute attentivement. Mon père lui-même le traite avec beaucoup de considération et sans la moindre apparence de hauteur, sans ce ton ironiquement protecteur dont il accueille si souvent les jeunes gens qui viennent nous voir et que ceux-ci n'aiment pas du tout. Plus je regarde mon nouvel oncle, plus il me plaît. Il a déjà changé de toilette et personne, à voir sa belle mine, ne se douterait qu'il vient de faire un long voyage. Ses vêtements à l'anglaise l'habillent admirablement et pas comme tout le monde. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, ce sont ses mains, grandes, blanches, soignées, avec des ongles brillants qui font penser à de grandes amandes roses. Je ne le quitte pas des yeux tout le temps du dîner. Absorbé dans cette contemplation, j'oublie même de manger. Après le dîner, mon oncle va s'asseoir sur un petit divan dans un coin du salon et me prend sur ses genoux. « Eh bien, faisons connaissance, mademoiselle ma nièce, » dit-il. Mon oncle me questionne sur mes études et sur mes lectures. Les enfants connaissent généralement leur côté fort ou faible, mieux que ne le supposent les grandes personnes. Je sais parfaitement, par exemple, que je travaille bien et qu'on me dit très avancé dans mes études pour mon âge. Aussi suis-je ravi que mon oncle ait eu l'idée de m'interroger, et je réponds à toutes ses questions avec plaisir et sans timidité. je m'aperçois aussi qu'il est content. « Voilà une fille instruite, » répète-t-il à chaque instant. « Elle sait déjà tout cela. » « Racontez-moi aussi quelque chose, mon oncle, » dis-je à mon tour. « Volontiers, mais on ne peut faire des contes à une demoiselle aussi savante que toi, » dit-il en plaisantant. « Il faut l'entretenir de choses sérieuses. » Et mon oncle me parle d'infusoires, de végétation marine, de récifs de corail. Car sa science est encore toute fraîche, il n'a pas quitté l'université depuis longtemps. Il raconte bien et s'amuse à me voir écouter avec la plus vive attention, les yeux grands ouverts, fixés sur lui. Depuis ce premier jour, la même scène se répète chaque soir. Après le dîner, papa et maman vont faire une sieste d'une demi-heure. Mon oncle n'a rien à faire. Il s'assied sur son petit divan favori, me prend sur ses genoux et me raconte une foule de choses. Il offrit bien aux autres de l'écouter aussi, mais ma sœur, qui venait de quitter les bancs de l'école, craignit de compromettre sa dignité de grande demoiselle en écoutant des récits instructifs, bons seulement pour les petites. Mon frère resta une fois avec nous, trouva la chose peu amusante et s'en retourna jouer aux chevaux. Quant à moi, nos entretiens scientifiques, ainsi que les intitula en riant mon oncle, me devinrent infiniment chers. Le moment préféré de toute la journée fut cette demi-heure passée seule après le dîner avec mon oncle. J'éprouvais une véritable adoration pour lui. Je ne jurerais même pas qu'il ne s'y mêla un certain sentiment voisin de l'amour auquel les petites filles sont plus disposées que ne le pensent les grandes personnes. À prononcer son nom, j'étais confuse, troublée. Ne s'agit-il même que de demander « Mon oncle est-il à la maison ?» À table, si quelqu'un, remarquant l'attention avec laquelle je le regardais, me disait « Tu aimes donc bien ton oncle, Sonia ?» Je devenais rouge jusqu'aux oreilles et ne soufflais mot. Dans le courant de la journée, je ne le voyais guère. Ma vie étant complètement séparée de celle des autres, mais soit pendant mes leçons, soit pendant mes récréations, je me disais sans cesse « Quand viendra le soir ?» Quand serai-je avec mon oncle? Pendant le séjour qu'il fit chez nous, nous reçûmes un jour la visite de voisins de campagne avec leur fille Olga. Cette Olga était la seule petite fille de mon âge qu'il m'arriva de rencontrer. On ne l'amenait pas souvent, mais en revanche on nous la laissait pour toute la journée, quelquefois même pour la nuit. C'était une enfant vive et gaie. Quoiqu'une véritable amitié ne fût guère possible entre nous à cause de la différence de nos goûts et de nos caractères, je me réjouissais généralement de son arrivée, d'autant plus qu'en son honneur, j'avais congé pour toute la journée. Mais en apercevant Olga ce jour-là, je me demandais aussitôt comment cela se passera-t-il après dîner. Le charme principal de mes entretiens avec mon oncle consistait pour moi à rester en tête-à-tête avec lui, à l'avoir exclusivement à moi toute seule, et je sentais bien d'avance que la présence de cette petite sotte gâterait tout. Aussi, mon ami fut-elle accueillie avec infiniment moins de plaisir que d'habitude. « Ne l'emmènera-t-on pas un peu plus tôt aujourd'hui ?» pensais-je toute la matinée, animé d'un secret espoir. Hélas, non. Olga ne devait partir que fort tard dans la soirée. Que faire ? Réprimant ma mauvaise humeur, je pris le parti de m'ouvrir à mon ami et de la prier de ne pas me gêner. « Vois-tu, Olga, lui dis-je d'une voix insinuante, je jouerai toute la journée avec toi et je ferai tout ce que tu voudras. En revanche, après le dîner, fais-moi le plaisir de me laisser tranquille et de t'en aller. Nous causons toujours après le dîner, mon oncle et moi, et nous n'avons pas du tout besoin de toi. » Elle accepta ma proposition, et dans le courant de la journée, pour ma part, je remplis rigoureusement notre contrat. Je jouais à tous les jeux qu'elle imagina, j'acceptais tous les rôles qu'elle m'imposa, me transformant au premier signe de dame en cuisinière et de cuisinière en dame. Enfin, on nous appela pour dîner. À table, j'étais sur des épines. Olga tiendra-t-elle parole, pensais-je? Et non sans inquiétude, je regardais ma compagne à la dérobée, lui jetant des coups d'œil expressifs destinés à lui rappeler nos engagements. Après le dîner, comme d'habitude, je vins baiser la main de papa et de maman, puis, m'approchant de mon oncle, j'attendis qu'il parlât. « Eh bien, petite fille, causerons-nous ce soir ?» demanda-t-il en me pinçant amicalement le menton. Je sautai de joie et, saisissant gaiement sa main, je me disposais à me rendre avec lui dans le petit coin consacré à nos entretiens, lorsque j'aperçus Olga, la perfide, qui prenait la même direction. Mes recommandations avaient, je crois, tout gâté. Si je n'avais rien dit, il est fort probable qu'en nous voyant entamer une conversation sérieuse, elle se serait vite enfuie, car elle avait horreur de tout ce qui ressemblait à une leçon. Mais, en remarquant combien je désirais me débarrasser d'elle, et combien j'attachais de prix au récit de mon oncle, elle s'imagina qu'ils étaient très amusants et voulut en avoir sa part. « Puis-je aussi venir avec vous ?» demanda-t-elle d'un ton suppliant, en levant vers mon oncle ses yeux bleus attendris. « Certainement, ma petite chérie, » répondit mon oncle, en la regardant amicalement, évidemment charmé de sa mignonne figure rose. Moi aussi, je regardais Olga, d'un air furieux, qui, du reste, ne la troubla aucunement. Mais Olga ne sait rien et ne nous comprendra pas, essayai-je de faire remarquer à mon oncle d'une voix irritée. Cette tentative pour me délivrer de mon importune compagne fut également vaine. Eh bien, nous parlerons aujourd'hui de choses plus simples, afin qu'elles puissent aussi intéresser Olga, dit l'oncle avec bonté. Et nous prenant toutes deux par la main, il se dirigea vers le divan avec nous. Je l'accompagnais sans mot dire. Cet entretien à trois, destiné surtout à Olga, puisqu'il faudrait se mettre à la portée de ses goûts et de son intelligence, était loin de me plaire. Je me sentis dépouillé de mon bien, de mon droit le plus cher et le plus sacré. « Eh bien, Sonia, grimpe sur mes genoux, » dit mon oncle, qui ne semblait pas remarquer ma mauvaise humeur. J'étais si blessé que cette offre ne m'adoucit pas. « Je ne veux pas, » répondis-je avec colère. Et je m'éloignai, boudeuse, dans un coin. Mon oncle me regarda d'un œil étonné, mais rieur. Comprit-il le sentiment de jalousie qui me troublait l'âme, et voulut-il me taquiner? Je l'ignore. Mais il se tourna tout à coup vers Olga et lui dit, « Eh bien, si Sonia n'en veut pas, prends sa place sur mes genoux. » Olga ne se le fit pas dire deux fois, et avant que j'eusse eu le temps de comprendre ce qui se passait, je la vis à ma place sur les genoux de l'oncle. Je ne m'attendais à rien de semblable. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'une chose aussi affreuse pût arriver. Je sentis littéralement la terre crouler sous mes pieds. Trop saisie pour protester, je restai là, silencieuse, ouvrant de grands yeux et regardant mon heureuse compagne. Et elle, un peu confuse, mais cependant très satisfaite, s'installait sans façon sur les genoux de l'oncle et s'efforçait de donner à son visage d'enfant joufflu une expression sérieuse et attentive en plissant sa petite bouche avec la plus drôle grimace. Elle en devenait rouge jusqu'au cou. Ses petits bras nus eux-mêmes en étaient cramoisis. Je la regardais, et soudain, je ne sais comment cela se fit, mais il se passa une chose terrible. Poussée par je ne sais quelle force inconsciente, inattendue, sans même me rendre compte de ce que je faisais, j'enfonçai mes dents un peu au-dessus du coude dans ce petit bras dodu et le mordit jusqu'au sang. L'attaque fut si soudaine, si imprévue, qu'au premier moment, nous restâmes tous trois stupéfaits à nous regarder. Mais tout à coup, Olga poussa un cri perçant, et ce cri nous ramena tous trois à la réalité. Un sentiment de honte amère, désespéré, s'empara de moi. Je me sauvai à toutes jambes. « Mauvaise, vilaine fille !» cria mon oncle d'une voix irritée. Mon refuge dans toutes les circonstances graves de ma vie était l'ancienne chambre de Marie Vassilievna, devenue la chambre de Niania. C'est encore là que je cherchais mon salut. Cachant ma tête dans les genoux de la bonne vieille, je sanglotais longtemps sans m'arrêter. Et Niania, me voyant dans cet état, ne me fit pas de questions, et se contenta de me caresser les cheveux en me comblant de tendres paroles. « Que Dieu soit avec toi, ma chérie. Calme-toi, mon enfant, » disait-elle. Ce fut un extrême soulagement, dans cette violente émotion, de pleurer à mon aise sur ses genoux. Par bonheur, ce soir-là, mon institutrice était absente. Elle faisait une visite de quelques jours dans le voisinage. Personne donc ne me chercha, et je pus me calmer auprès de Niania. Quand je fus plus tranquille, elle me fit prendre du thé et me coucha dans mon petit lit où je m'endormis aussitôt d'un sommeil de plomb. Mais le lendemain, en m'éveillant, lorsque je me rappelais la scène de la veille, la honte me reprit. Il me parut impossible d'affronter ma famille. Jamais je n'aurais ce courage. Les choses se passèrent cependant beaucoup mieux que je n'aurais pu l'espérer. Olga avait été emmenée la veille au soir. Évidemment, elle avait eu la générosité de ne pas m'accuser. Je m'aperçus qu'on ne savait rien. Personne ne me reprocha l'épisode de la veille, personne ne me taquina. Mon oncle lui-même parut ne pas s'en souvenir. Chose étrange, cependant, depuis ce moment, mes sentiments pour lui subirent une transformation complète. Nos entretiens du soir ne se renouvelèrent plus. Bientôt, il retourna à Pétersbourg. Et quoique les occasions de le rencontrer ne fussent pas rares par la suite, qu'il fût toujours très bon pour moi et que j'eusse pour lui beaucoup d'amitié, je ne retrouvais plus pour lui mon adoration première. 7. Ma sœur. Mais de toutes les influences qui exercèrent une action sur ma jeunesse, la plus forte, sans contredit, fut celle de ma sœur Aniuta. Le sentiment qu'elle m'inspira dès l'enfance fut complexe. Mon admiration pour elle était sans bornes. J'acceptais son autorité en tout et sans contestation. J'étais flatté qu'elle me permît de prendre part à ce qui l'occupait. J'aurais été au feu, à l'eau pour elle. Et cependant, malgré cette vive affection, je cachais dans les replis de mon âme quelque chose comme un peu d'envie, de cette envie particulière que nous éprouvons si souvent et presque inconsciemment pour des personnes chères, qui nous sont proches, que nous admirons et auxquelles nous voudrions ressembler en tout. Et j'avais tort d'envier ma sœur, car en réalité, sa destinée n'était pas gaie. Au moment où mes parents fixèrent leur résidence à la campagne, elle sortait de l'enfance. Peu après notre installation, l'insurrection polonaise éclata, et les échos en vinrent jusqu'à nous, notre terre étant située sur la frontière lituanienne. La plupart de nos voisins, et principalement ceux qui étaient riches ou bien élevés, appartenaient au parti polonais. Plusieurs furent sérieusement compromis, d'autres virent leurs biens confisqués. Presque tous furent contraints de payer les contributions de guerre. Plusieurs même quittèrent volontairement leurs terres et s'en allèrent à l'étranger. Pendant les années qui suivirent l'insurrection, il sembla que dans nos contrées, la jeunesse eût disparu tout entière. Elle s'était en quelque sorte évaporée. Il ne restait que des enfants, des vieillards inoffensifs, effrayés, craignant jusqu'à leur ombre, et le monde des fonctionnaires, des marchands et des petits propriétaires. La vie de campagne, dans ces conditions, n'offrait guère de ressources à une jeune fille, et rien du reste dans l'éducation d'Aniuta n'avait contribué à développer en elle des goûts champêtres. Elle n'aimait à se promener ni à pied, ni en voiture, ni en bateau. Chercher des champignons ne l'amusait pas davantage. Et d'ailleurs, les plaisirs de ce genre, étant toujours proposés par l'institutrice anglaise, il suffisait, grâce à l'antagonisme qui régnait entre elles, que l'une eût une idée pour que l'autre la repoussât tout de suite avec aigreur. Aniuta, pendant tout un été, eut la passion du cheval, mais ce fut, je crois, plutôt à l'imitation de l'héroïne de quelques romans qui l'occupait alors. N'ayant personne pour l'accompagner, elle se lassa vite de la fastidieuse société d'un cocher, et son cheval, baptisé du nom romanesque de Frida, reprit celui de Galoupka, ainsi que le rôle plus modeste de mener le régisseur au champ. Il ne pouvait être question pour ma sœur de s'occuper du ménage. Cette idée eût paru absurde à son entourage autant qu'à elle-même. Son éducation tout entière avait eu pour unique objet d'en faire une brillante femme du monde. Tant que nous habitâmes la ville, on la produisit dans toutes les fêtes enfantines. Dès l'âge de 7 ans, elle en fut la reine, et papa était fier de ses succès. Ils sont restés légendaires dans la famille. Notre Aniuta est faite pour le palais impérial. Elle tournera la tête à tous les tsarevitch quand elle sera grande, disait en plaisantant papa. Malheureusement, nous prenions, et surtout Aniuta, ses plaisanteries au sérieux. Dans sa première jeunesse, ma sœur était très jolie, grande, bien faite, avec un teint éblouissant et une forêt de cheveux blonds, elle pouvait passer pour une beauté accomplie. À tous ses dons se joignait un charme très particulier. Elle se sentait faite pour jouer le premier rôle dans tous les milieux où elle se trouverait. Et maintenant, elle se voyait condamnée à vivre à la campagne, dans l'isolement et l'ennui. Souvent, les larmes aux yeux, elle venait trouver mon père et lui reprochait de la tenir ainsi enfermée. Mon père tourna d'abord la chose en badinage, puis il condescendit parfois à des explications raisonnables sur la nécessité qui incombait à chacun de vivre dans ces terres à l'époque agitée que nous traversions. Abandonner ses propriétés en ce moment équivalait à la ruine de la famille. Agnota ne savait que répondre à ces vérités, mais sa situation n'en devenait pas plus agréable et sa jeunesse, pensait-elle, ne recommencerait pas. Après des conversations semblables, elle s'enfermait dans sa chambre et pleurait amèrement. Chaque hiver, cependant, mon père envoyait ma mère et ma sœur passer un mois ou 6 semaines à Pétersbourg chez nos tantes. Mais ces voyages coûtaient cher et ne remédiaient guère au mal. Ils excitaient le goût d'Agnota pour les plaisirs et ne l'apaisaient pas. Un mois à Pétersbourg passait si vite qu'elle avait à peine le temps de se reconnaître. Personne dans la société qu'elle fréquentait ne pouvait diriger son esprit vers un but sérieux. Et quant au parti sortable, il ne s'en présentait pas. Tout se bornait donc à lui faire de jolies toilettes, à l'amener 3 ou 4 fois au théâtre, au bal de l'Assemblée de la noblesse, ou à quelques soirées données en son honneur par une personne de la famille, et à la combler de compliments sur sa beauté. Puis, à peine mise en goût, on la ramenait à Palébino. Et là, elle reprenait sa vie ennuyeuse, oisive, isolée. Ses longues heures de promenade, à travers toutes les grandes chambres vides, repassant dans sa pensée les plaisirs écoulés et rêvant passionnément et inutilement à de nouveaux succès. Afin de remplir un peu le vide de son existence, ma sœur se créait sans cesse quelques nouveaux sujets d'un intérêt purement artificiel. Et comme autour de nous, la vie intérieure était pauvre pour tous, chacun se jetait avec ardeur sur les idées d'Agnota pour y trouver un aliment à la conversation et à la discussion. Les uns blâmaient, d'autres approuvaient, mais une interruption à la monotonie habituelle de l'existence était la bienvenue. Lorsqu'Agnota atteignit l'âge de 15 ans, son premier acte d'indépendance fut de s'emparer de tous les romans contenus dans notre bibliothèque de campagne pour les absorber en quantité prodigieuse. Nous n'avions pas de livres mauvais, heureusement, mais les œuvres médiocres et sans valeur abondaient. La principale richesse de notre bibliothèque consistait en de vieux romans anglais, pour la plupart historiques, dont l'action se passait au Moyen-Âge, à l'époque de la chevalerie. Ces romans furent une révélation pour ma sœur. Ils lui découvrirent un monde merveilleux, inconnu pour elle jusque-là, et offrirent un champ nouveau à son imagination. Elle recommença l'histoire du pauvre Don Quichotte, crue comme lui à la chevalerie, et s'imagina être une demoiselle du vieux temps. Par malheur, notre maison de campagne, une construction massive et d'énormes dimensions, avec une tour et des fenêtres gothiques, avait un faux air de château Moyen-Âge. Aussi, pendant cette période chevaleresque, ma sœur ne manqua-t-elle jamais de dater chacune de ses lettres du « château Palébino ». Tout au haut de la tour se trouvait une chambre, vide depuis si longtemps que les marches branlantes de l'escalier fort raide qui y menait en étaient couvertes de moisissures. Agnota la fit nettoyer et débarrasser des toiles d'araignée qui en couvraient les murs, y fit tendre de vieux tapis, y suspendit des armures qu'elle avait dénichées je ne sais où au grenier, et choisit ce réduit pour sa résidence particulière. Je la vois encore, mince et souple, étroitement serrée dans une robe blanche, deux lourdes nattes blondes lui retombant jusqu'à la ceinture, assise devant un métier où elle brode en perles les armoiries du roi Mathias Corvin, celles de la famille. Elle regarde par la fenêtre sur la grande route pour voir s'il ne vient pas quelque chevalier. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois que la terre qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Au lieu de chevalier, c'est l'ispravnik ou bien quelque employé de l'accise, ou encore des juifs venant acheter des bœufs ou de l'eau-de-vie, pas l'ombre d'un chevalier. Lasse de cette vaine attente, ma sœur renonça au chevalier, et la période chevaleresque passa presque aussi vite qu'elle était venue. Au moment où, d'une façon presque inconsciente, les romans de chevalerie commençaient à l'ennuyer, un roman anglais, très exalté, lui tomba entre les mains. Il était intitulé « Harald ». Après la bataille de Hastings, Edith, au coup de cygne, trouve parmi les morts le cadavre du roi Harald, son fiancé. Celui-ci a commis un parjure avant de mourir et n'a pas eu le temps de se repentir. Le péché est mortel, il est damné. Depuis lors, Edith disparaît, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Les années passent, le souvenir d'Edith est presque effacé. Mais sur la rive opposée à la côte anglaise, s'élève, au sommet d'un rocher, entouré d'une épaisse forêt, un couvent célèbre par l'austérité de sa règle. Une religieuse s'y fait remarquer par sa grande piété et par le vœu de silence qu'elle s'est imposé. Elle ne dort ni jour ni nuit et passe sa vie prosternée devant un crucifix dans la chapelle du couvent. Elle ne se montre que lorsqu'il y a du bien à faire ou une souffrance à soulager. Personne ne meurt dans le voisinage du couvent sans que la religieuse ne paraisse au chevet de l'agonisant, approche de son front ses lèvres scellées par le serment d'un éternel silence. Nul ne la connaît. Une vingtaine d'années auparavant, une femme en noir s'est présentée à la porte du couvent. Après une longue et mystérieuse conférence avec l'abbesse, elle a été admise dans le monastère et y est restée. L'abbesse est morte depuis. La pâle religieuse est toujours là comme une ombre. On n'a jamais entendu le son de sa voix. On la vénère à l'égal d'une sainte, bien qu'une pénitence aussi dure paraisse à quelques-uns racheter sans doute une jeunesse criminelle. Enfin, arrive pour elle l'heure de la mort. Toutes les religieuses s'assemblent autour de son lit. La mère abbesse elle-même, quoique paralysée, se fait porter dans la cellule de l'agonisante. Voici le prêtre. Au nom du Christ, il relève celle-ci de son serment et l'adjure de révéler son nom et de confesser le crime si durement expié. La mourante se soulève sur sa couche. Ses lèvres pâles semblent avoir perdu l'usage de la parole. Enfin, soumise à l'ordre de son confesseur, elle parle, et sa voix, éteinte depuis 20 ans, résonne sourde et lugubre. « Je suis Edith, » dit-elle avec effort, « la fiancée du roi Harald. » À ce nom maudit de tous les serviteurs de l'Église, les timides religieuses font un signe de croix. Mais le prêtre dit, « Ma fille, vous avez aimé sur la terre un grand pécheur. Le roi Harald a été maudit par l'Église, il n'y a pas de pardon pour lui, il brûle dans le feu éternel. Mais Dieu a vu vos larmes, votre longue pénitence. Allez en paix, un autre fiancé vous attend au ciel. » Les joues pâles de la mourante s'animent. Ses yeux, qui semblaient morts, s'éclairent d'un feu passionné. « Que ferais-je du paradis sans Harald ? » s'écrie-t-elle, au grand effroi des religieuses qui l'entourent. « Si Harald n'a pas reçu de pardon, que Dieu ne me reçoive pas dans son paradis. » Et Edith, se levant avec effort de son lit de souffrance, se prosterne devant le crucifix. « Grand Dieu, dit-elle d'une voix brisée, je meurs depuis 20 ans d'une mort lente, affreuse. Tu sais si j'ai souffert. Si j'ai quelque mérite devant toi, pardonne à Harald, fais un miracle. Pendant que nous réciterons un pater, que le cierge placé devant le crucifix s'allume. Ce sera le signe du pardon. » Le prêtre commence la prière, les religieuses la répètent après lui, émues de pitié pour la malheureuse Edith, prêtes à donner leur vie pour le salut de l'âme de Harald. Edith mourante est prosternée à terre. Le cierge ne s'allume pas. Le prêtre dit « Amen » d'une voix triste. Le miracle ne s'est pas accompli, Harald n'a pas obtenu de pardon. Un cri de blasphème s'échappe de la bouche d'Edith et son regard s'éteint pour jamais. Tel est le roman qui amena une crise dans la vie intérieure de ma sœur. Pour la première fois, cette question se présenta nettement à son imagination. Y a-t-il une autre vie? Tout finit-il avec la mort? Deux êtres qui se sont aimés se retrouvent-ils dans un autre monde? Et se reconnaissent-ils? Ma sœur fut frappée de ces questions. Elle mettait de la violence en tout. Il lui sembla être la première qui se fût jamais heurtée à ces problèmes, et sincèrement, il lui parut impossible de vivre sans leur trouver une solution. Je vois encore une belle soirée d'été. Le soleil se couchait, la chaleur était tombée, tout dans l'atmosphère était harmonie et douceur. Un parfum de rose et de foin fraîchement coupé pénétrait par la fenêtre ouverte. Les bruits de la ferme, mugissement des vaches, bêlement d'agneaux, voix des laboureurs, cette musique champêtre d'une soirée d'été arrivait jusqu'à nous, mais si fondue, si adoucie par la distance, que l'impression générale de calme et de repos en était augmentée. Joyeuse et tout épanouie, j'échappais un moment à la surveillance despotique de mon institutrice pour m'élancer comme une flèche dans l'escalier de la tour afin de voir ce qui faisait ma sœur. Quel spectacle s'offrit à ma vue! Ma sœur, étendue sur un divan, les cheveux épars, tout illuminée par les rayons du soleil couchant, pleurait à chaudes larmes, sanglotant à se rompre la poitrine. Je courus à elle, épouvantée. « Agnuta, qu'as-tu ?» Elle ne répondit pas et me fit signe de la main de m'éloigner et de la laisser tranquille. Mon insistance n'en fut que plus vive. Longtemps, elle ne dit rien. Enfin, se soulevant avec peine, et d'une voix faible qui me parut brisée, elle murmura « Tu ne peux pas comprendre, toi. Je ne pleure pas sur moi-même, mais sur nous tous. Tu es encore trop enfant, tu as le droit de ne pas réfléchir sérieusement. J'ai été comme toi, mais ce livre merveilleux et cruel, elle m'indiqua le roman de Bulwer, m'a forcé à envisager l'énigme de la vie. J'ai compris l'illusion de tout ce qui nous attire. Le bonheur le plus vif, l'amour le plus ardent, tout finit avec la mort. Qu'est-ce qui nous attend après? Savons-nous même si quelque chose nous attend? Nous ne savons rien. Nous ne saurons jamais rien. C'est affreux, affreux. » Elle se mit à sangloter, le visage caché dans le coussin du divan. Ce désespoir sincère d'une jeune fille de 16 ans, frappée pour la première fois par l'idée de la mort, grâce à la lecture d'un roman anglais, ces paroles pathétiques empruntées au roman et adressées à un enfant de 10 ans, auraient pu faire sourire une personne plus âgée. Quant à moi, l'effroi me saisit littéralement au cœur, et je fus rempli d'admiration pour la profondeur et la grandeur des pensées qui absorbaient Agnuta. Le charme de la soirée d'été disparut subitement pour moi. Je me sentis honteuse de cette joie sans cause dont je débordais quelques minutes auparavant. Mais ne savons-nous pas que Dieu existe, et que nous irons à lui après la mort? Essayai-je de répliquer. Ma sœur me regarda doucement, comme une personne âgée considère un enfant. « Oui, tu as conservé ta pure foi d'enfant. Ne parlons plus de cela, » ajouta-t-elle d'un ton tout à la fois si triste et si pénétré du sentiment de son immense supériorité que ses paroles me remplirent, je ne sais pourquoi, de confusion. À partir de cette soirée, il s'opéra en ma sœur un grand changement. Pendant quelques jours, on la vit errer, doucement affligée, offrant à chacun l'image du renoncement au bien de la terre. Tout en elle disait « Memento mori ». Les chevaliers, les belles dames et les tournois étaient oubliés. Pourquoi désirer? Pourquoi aimer, puisque la mort mettait fin à tout? Ma sœur ne touchait plus un roman anglais. Elle les avait pris en horreur. En revanche, elle dévorait l'imitation de Jésus-Christ et cherchait, comme Thomas à Kempis, à étouffer le doute dans son âme par le renoncement et les austérités. Avec les domestiques, elle se montrait d'une douceur et d'une bienveillance extrêmes. Si notre petit frère ou moi lui demandions quelque chose, au lieu de nous le refuser en grondant, comme d'habitude, elle cédait aussitôt d'un air de résignation si touchant que j'en avais le cœur serré et en perdais toute envie de m'amuser. Chacun dans la maison respecta cette disposition pieuse. On la traita doucement, comme une malade ou une personne affligée d'une grande douleur. L'institutrice seule haussa les épaules d'un air incrédule, et, à table, papa plaisanta sa fille sur son air ténébreux. Mais ma sœur se soumettait humblement aux plaisanteries de son père et prenait avec l'institutrice un ton d'exquise politesse qui rendait celle-ci plus furieuse peut-être que les impertinences habituelles. Quant à moi, je perdais l'envie de me réjouir en voyant ma sœur ainsi, et honteuse de mon peu d'esprit de pénitence, je lui enviais la force et la profondeur de ses sentiments. Cet accès de dévotion ne fut cependant pas de longue durée. Le 5 septembre approchait, c'était la fête de maman, et ce jour était toujours célébré dans notre famille avec une certaine solennité. Tous nos voisins, à 50 verstes à la ronde, se rassemblaient chez nous. On réunissait parfois jusqu'à 100 personnes, et on préparait toujours à cette occasion quelques réjouissances extraordinaires, un feu d'artifice, des tableaux vivants ou un spectacle d'amateur. Les préparatifs se faisaient naturellement longtemps à l'avance. Ma mère aimait à jouer la comédie. Elle la jouait bien et gaiement. On nous avait installé, cette année, un théâtre avec coulisses, décors et rideaux. Nous avions dans le voisinage quelques vieux amateurs qu'on pouvait toujours prendre comme acteurs. Ma mère eut donc envie de monter une pièce. Mais à cause de sa fille, déjà grande, elle n'osait en montrer un désir trop personnel et préférait mettre Agnota en avant. Et, comme un fait exprès, voilà Agnota plongée dans une dévotion presque monacale. Je me rappelle les façons tout à la fois prudentes et timides de ma mère avec Agnota pour lui faire adopter son idée. Ma sœur ne s'y décida pas aisément et commença par témoigner son mépris pour de semblables divertissements. Quelle affaire ! Et à quoi bon ? Enfin, elle donna son assentiment de l'air d'une personne qui cède aux sollicitations d'autrui. Les futurs acteurs se réunirent pour choisir une pièce. On sait que ce n'est pas facile. Il faut que la pièce soit amusante, qu'elle ne le soit pas trop, et qu'elle n'exige pas de mise en scène trop compliquée. Le choix s'arrêta sur un vaudeville français, Les œufs de Perrette. Pour la première fois, Agnota allait prendre part, à titre de grande personne, à un spectacle d'amateur, et le rôle principal lui fut confié. Les répétitions commencèrent. Elle montra de remarquables dispositions théâtrales. Et voilà la crainte de la mort, la lutte de la foi et de la conscience, l'effroi d'un mystérieux au-delà, envolé. On entendait du matin au soir résonner la voix claire d'Agnota chantant des couplets français. Après la fête de maman, les larmes recommencèrent, mais leur cause en était différente. Ma sœur pleurait parce que son père refusait de la faire entrer dans une école dramatique où elle put se préparer au théâtre. Elle se sentait une vocation décidée pour la scène. 8. Ma sœur, suite. Tandis qu'Agnota rêvait de chevalerie et versait des larmes amères sur la destinée de Harald et d'Edith, la majeure partie de la jeunesse intelligente en Russie était entraînée vers un idéal bien différent. Les enthousiasmes d'Agnota peuvent donc frapper comme un étrange anachronisme. Mais le coin de terre où se trouvaient nos propriétés était si éloigné d'un centre intellectuel, les murs qui entouraient Palibino étaient si hauts et le séparaient si complètement du monde extérieur que le souffle des idées nouvelles ne pouvait gagner nos paisibles rivages qu'après avoir longtemps agité les flots de la pleine mer. En revanche, dès que ces idées arrivèrent jusqu'à nous, elles envahirent et entraînèrent Agnota immédiatement. Comment ? Par quelle voie et de quelle façon ces nouveautés pénétrèrent-elles chez nous ? Il est difficile de le préciser. Le propre des époques de transition est de laisser peu de vestiges. Un paléontologue, par exemple, trouve, en étudiant une couche géologique, de nombreuses traces fossiles d'une époque dont la faune et la flore sont bien caractérisées. Il s'en peut former une image, mais qu'il passe à une autre couche, le voilà en présence de types nouveaux, d'une formation toute différente. Comment cette transformation s'est-elle opérée ? Il n'en sait rien. Les habitants de Palibino vivaient tranquilles et calmes, grandissant, vieillissant, se querellant et se raccommodant. Pour passer le temps, ils discutaient des articles de journaux et des découvertes scientifiques, pleinement convaincus toutefois que ces questions appartenaient à un monde inconnu, lointain, avec lequel leur vie habituelle ne serait jamais en contact immédiat. Et soudain, sans qu'ils sachent comment, les indices d'une fermentation étrange se produisent à leur côté, menacent d'ébranler jusque dans ses fondements l'ordre de leur vie calme et patriarcale. Et le danger ne menaça pas un point particulier. Il sembla attaquer tout à la fois. La période de 1860 à 1870, on peut le dire, vit presque uniquement une seule et même question agiter les couches intelligentes de la société russe, celle de la scission dans les familles entre jeunes et vieux. S'il arrivait de demander à cette époque des nouvelles de quelques familles nobles, on recevait presque toujours la même réponse. Les parents sont brouillés avec leurs enfants. Et ces brouilles n'avaient pour cause aucune difficulté matérielle. Il ne s'agissait que de dissidences théoriques du caractère le plus abstrait. Leurs convictions diffèrent, c'était tout. Mais ce tout suffisait pour séparer les enfants des parents, et pour rendre les parents hostiles ou indifférents à leurs enfants. Les enfants, surtout les jeunes filles, devenaient la proie d'une manie épidémique, la désertion de la maison paternelle. Notre voisinage immédiat en avait été exempt jusque-là, grâce à Dieu, mais il circulait des bruits qui parvenaient jusqu'à nous. Chez tel propriétaire, puis chez tel autre, la fille de la maison s'est sauvée. L'une pour aller étudier à l'étranger, l'autre pour aller à Pétersbourg chez les nihilistes. Le sujet d'effroi principal pour les parents et les instituteurs, tout autour de Palibino, était une certaine « commune » établie, disait-on, à Pétersbourg, où l'on attirait, du moins c'était la rumeur publique, toutes les jeunes filles qui voulaient quitter la maison paternelle. Les jeunes gens des deux sexes y étaient censés vivre dans un communisme complet. Des jeunes filles de bonne famille lavaient les planchers, nettoyaient les samovars de leurs propres mains, car elles n'admettaient aucune domesticité. Ceux qui répandaient ces bruits n'avaient, il est vrai, jamais vu cette commune. Ils ignoraient même où elle se trouvait et comment elle pouvait exister à Pétersbourg sous les yeux de la police. Néanmoins, cette existence ne faisait doute pour personne. Bientôt, les signes du temps se manifestèrent dans notre voisinage immédiat. Le prêtre de notre paroisse avait un fils dont la soumission et la conduite exemplaires faisaient jadis la joie de ses parents. Mais à peine ses cours du séminaire brillamment achevés, il était, je crois, sorti premier, ce digne jeune homme se transforma, sans raison apparente, en fils rebelle, et déclara nettement qu'il renonçait à la prêtrise, bien qu'il n'eût qu'à étendre la main pour obtenir une riche paroisse. Son éminence l'archevêque le fit venir, l'engagea lui-même à ne pas quitter le giron de l'Église, donnant clairement à entendre au jeune homme qu'une des meilleures paroisses du gouvernement lui serait confiée s'il en témoignait le désir, à la condition toutefois d'épouser une des filles de son prédécesseur. L'usage traditionnel exigeant que la paroisse servît en quelque sorte de dot à une des filles du pope. Cette séduisante perspective ne produisit aucun effet. Le jeune homme préféra partir pour Pétersbourg, entrer à ses propres frais à l'université et se condamner pendant 4 ans d'études au thé et au pain sec pour toute nourriture. Le pauvre père Philippe s'affligea de la déraison de son fils, mais il en eut pris tant bien que mal son parti, si celui-ci avait choisi la faculté de droit, celle qui, par la suite, nourrit le mieux son homme, comme chacun sait. Malheureusement, son fils choisit les sciences naturelles. Il revint aux vacances suivantes, farci d'absurdité, prétendant par exemple que l'homme descend du singe et que, selon les démonstrations du professeur Setchenov, il n'y a pas d'âme, mais une action réflexe. Le pauvre prêtre désolé saisit son goupillon et aspergea son fils d'eau bénite. Jadis, lorsque le jeune homme venait passer ses vacances chez son père, il ne manquait à aucune de nos fêtes de famille, et se présentait régulièrement pour nous saluer et manger de grand appétit le gâteau de fête au bas bout de la table, sans jamais se mêler à la conversation, ainsi qu'il convenait à sa position. Cette année, il brilla par son absence à la première fête de famille qui suivit son arrivée. En revanche, il se présenta un jour qui n'était pas celui fixé par les réceptions de mon père. Et au domestique, lui demandant ce qu'il voulait, il répondit qu'il venait simplement rendre visite au général. Mon père, ayant beaucoup entendu parler du nihiliste, n'avait pas manqué de remarquer son absence le jour de sa fête, bien qu'il ne semblât prêter aucune attention à de si minces détails. Contrarié maintenant de l'audace de ce gamin, qui osait le traiter d'égal à égal, il voulut lui donner une leçon, et le domestique eut ordre de répondre « Le général reçoit les solliciteurs et ceux qui viennent pour affaires le matin avant 1 heure. » Le fidèle Ilia, qui comprenait toujours son maître à demi-mot, s'acquitta de la commission dans l'esprit où elle lui avait été donnée. Il ne parvint cependant pas à intimider le jeune homme, et celui-ci s'en alla en répondant simplement « Tu diras à ton maître que je ne mettrai plus les pieds dans sa maison. » Ilia s'acquitta aussi de cette commission. On peut imaginer le bruit que fit la sortie du jeune Popovitch, non pas seulement chez nous, mais dans tout le voisinage. Chose plus frappante encore, Agnuta, sitôt qu'elle apprit cet incident, accourut chez notre père sans être appelée, et les joues brûlantes d'émotion, lui dit d'une voix entrecoupée, « Pourquoi as-tu blessé Alexis Filipovitch, papa? C'est très mal, c'est indigne d'insulter un garçon bien élevé. » Papa la regarda avec stupéfaction. Son étonnement fut si grand qu'il ne trouva pas même de parole pour remettre cette impertinente petite fille à sa place. Au reste, cet accès de soudaine audace ne fut pas de longue durée, et Aniuta s'enfuit bien vite dans sa chambre. Mon père, tout bien pesé, préféra ne donner aucune suite à l'incident et le prendre par son côté risible. Il raconta devant Aniuta l'histoire d'une princesse qui s'était faite la protectrice d'un palefrenier. La princesse et son protégé furent naturellement tournés en ridicule. Mon père était passé maître dans l'art de lancer des pointes, et nous redoutions fort ses plaisanteries. Mais cette fois, Aniuta l'écouta sans sourciller, prit même un air insolent et provocateur pour protester contre l'insulte faite au fils du prêtre. Elle chercha à le rencontrer partout, soit en promenade, soit chez les voisins. Un soir, au souper des domestiques, le cocher Stéphane raconta qu'il avait, de ses propres yeux, vu l'aîné des jeunes maîtresses se promener dans le bois en tête-à-tête avec le Popovitch. Et c'était drôle à regarder. Mademoiselle marchait sans rien dire, la tête baissée, jouant avec son parasol. Et lui, à ses côtés, faisait de grands pas, avec ses longues jambes, tout pareil à une grue. Et tout le temps, il parlait en agitant ses grands bras. Puis, par moments, il tirait un livre tout déchiré de sa poche, et voilà qu'il lisait à haute voix, comme qui dirait une leçon qu'il lui faisait. Le jeune Popovitch ne ressemblait guère, il faut en convenir, à un prince de conte de fées ou à un des chevaliers rêvés par Aniuta. Son grand corps mal bâti, son long cou aux veines saillantes, son visage pâle entouré de cheveux d'un blond jaunâtre, ses grandes mains rouges aux ongles d'une propreté douteuse, et surtout son accent déplaisant et vulgaire, qui témoignait clairement de son éducation, tout cela ne pouvait en faire un héros séduisant aux yeux d'une jeune fille à préjugés et à tendances aristocratiques. Impossible de rien soupçonner de romanesque dans l'intérêt témoigné par Aniuta à ce jeune homme. Cet intérêt tenait évidemment à autre chose. Le grand prestige du jeune homme, aux yeux d'Aniuta, consistait en effet à arriver de Pétersbourg, d'où il rapportait les idées les plus nouvelles. Il avait même eu le bonheur de voir, de loin il est vrai, quelques-unes de ces grandes figures, objets de l'idolâtrie de la jeunesse à cette époque. Cela suffisait pour le rendre à son tour intéressant et sympathique. Aniuta, grâce à lui, obtint des livres qu'elle ne pouvait se procurer. On ne recevait chez nous que les journaux les plus sérieux et les mieux pensants. La Revue des Deux Mondes et l'Athénéum, en fait de journaux étrangers, et comme journaux russes, le Messager russe. Mon père avait consenti, par condescendance pour l'esprit du moment, à s'abonner cette année au journal de Dostoïevski, L'Époque. Mais avec l'aide du Popovitch, Aniuta se procura des journaux d'un autre calibre. Le Contemporain, La Parole russe, dont chaque numéro était salué par la jeunesse comme un événement. Une fois même, il apporta un numéro de La Cloche de Herzen, un journal défendu. Il serait injuste de croire qu'Aniuta accepta les idées nouvelles prêchées par son ami sans les soumettre à aucune critique. Plusieurs de ses idées la révoltaient, d'autres lui paraissaient trop avancées. Elle discutait et protestait. En tout cas, elle se développa si rapidement sous l'influence de ses entretiens avec le Popovitch et des livres qu'il lui procurait qu'elle se transformait d'heure en heure plutôt que de jour en jour. Le fils du prêtre réussit à s'aliéner si complètement son père que, l'automne venu, celui-ci le pria de ne pas revenir aux vacances suivantes. Mais les germes jetés dans l'esprit d'Aniuta n'en continuèrent pas moins à croître et à se développer. Elle changea même extérieurement, s'habilla de robes noires fort simples, avec de petits cols plats, les cheveux retenus par un filet. Elle ne parlait de bal et de plaisir qu'avec mépris. Toute la matinée se passait à rassembler les enfants des domestiques pour leur donner une leçon de lecture, ou à causer longuement avec les paysannes qu'elle rencontrait en se promenant et qu'elle arrêtait. Chose plus surprenante encore, Aniuta, qui avait autrefois l'horreur de l'étude, se prit à étudier maintenant avec passion. Au lieu de dépenser son argent de poche en objets de toilette et en chiffon, elle fit venir des ballots de livres, et non plus des romans, mais des livres à titre savant, histoire de la civilisation, physiologie de la vie, etc. Un beau jour, Anyuta se présenta à notre père avec une exigence nouvelle et fort inattendue. Elle demandait à être envoyée seule à Pétersbourg pour y faire ses études. Papa chercha encore à tourner cette demande en plaisanterie, comme il l'avait fait jadis lorsqu'Anyuta déclarait ne pouvoir vivre à la campagne. Mais cette fois, elle ne se laissa pas persuader. Ni les plaisanteries, ni les moqueries n'obtinrent de succès. Elle démontra avec chaleur que si son père était forcé d'habiter la campagne, il ne s'en suivait pas qu'elle fût obligée de s'y enterrer, ni ayant pour sa part ni affaire ni plaisir. Mon père, exaspéré, finit par la gronder comme une petite fille. « Puisque tu ne comprends pas qu'une fille honnête doive, jusqu'à son mariage, vivre auprès de ses parents, je me dispense de toute discussion avec une sotte, » dit-il. Anyuta vit qu'elle ne gagnerait rien à insister. Mais depuis ce jour-là, ses relations avec notre père furent contraintes. Irrités l'un contre l'autre, la situation devint de plus en plus tendue. À dîner, le seul moment de la journée où ils se rencontrassent, ils ne s'adressaient plus directement la parole. Et chaque phrase était une pointe ou une allusion amère. Dès lors, la discorde régna dans la famille. Bien que jusqu'ici nous n'eussions jamais eu aucun objet commun d'intérêt, et que chaque membre de la famille eût toujours vécu de son côté, sans témoigner grande attention aux autres, nous n'avions jamais formé deux camps hostiles comme à présent. Dès le début, l'institutrice fit une vive opposition aux idées nouvelles. Anyuta fut taxée de nihiliste ou de demoiselle avancée, et cette dernière épithète prenait dans la bouche de l'anglaise une signification particulièrement ironique. Elle sentait instinctivement qu'Anyuta complotait quelque chose et la soupçonnait des desseins les plus criminels, comme de vouloir quitter secrètement la maison, épouser le fils du pape ou de faire partie de la fameuse commune. Et elle surveillait chacun de ses pas. Ma sœur, se sentant espionnée, s'entoura pour taquiner l'institutrice d'un mystère exaspérant et blessant. Cette disposition d'esprit batailleuse ne tarda pas à réagir sur moi. L'institutrice avait de tout temps désapprouvé mon intimité avec ma sœur. Maintenant, elle éloigna son élève de la demoiselle avancée comme d'une peste. Rester seule avec ma sœur devint une difficulté toujours croissante, et mes tentatives pour quitter ma chambre d'études et pour monter au salon avec les grandes personnes me furent imputées à crime. Une surveillance aussi vigilante me contrariait extrêmement. Je sentais qu'Anyuta avait des objets d'intérêt nouveaux, inconnus jusque-là, et j'éprouvais un désir passionné de les connaître. Chaque fois qu'il m'arrivait d'entrer à l'improviste dans la chambre d'Anyuta, je la surprenais à sa table, écrivant quelque chose. Je cherchais à lui faire dire ce qu'elle écrivait, mais ma sœur, à laquelle la gouvernante ne marchandait pas le reproche de s'être dévoyée et de vouloir me détourner aussi de mon devoir, prit le parti de me renvoyer dans la crainte de nouvelles querelles. « Va-t'en, je t'en prie, » me disait-elle avec impatience. « Si Marguerite Frantzovna te trouve ici, nous serons bien arrangés toutes les deux. » Je rentrai dans ma chambre d'études, plus irrité encore contre cette institutrice, cause du silence de ma sœur. La tâche de la pauvre Anglaise se compliquait de jour en jour. J'entendais dire à table, et je le comprenais d'ailleurs fort bien, qu'il n'était plus de mode d'obéir aux personnes âgées. Mon sentiment de subordination s'en émoussa, et mes discussions avec mon institutrice se répétèrent presque journellement. Après une scène plus orageuse que les autres, Marguerite Frantzovna déclara qu'elle ne pouvait plus rester chez nous. Cette menace s'était réitérée si souvent que je n'y prêtais pas d'abord grande attention. Mais cette fois la chose fut sérieuse. D'une part, l'institutrice s'était trop avancée pour pouvoir convenablement reculer. De l'autre, mes parents, fatigués de scènes incessantes qui lassaient tout le monde, ne la retinrent pas. Ils espéraient qu'après le départ de l'Anglaise, la maison deviendrait plus calme. Je doutais jusqu'au bout de ce départ. L'heure de la séparation sonna cependant.